Eh bien, on va commencer cet après-midi par la présentation du livre de Cécile Duquesne avec Cécile, Penny Cambriole. On s'arrêtera sur le sous-titre après. Cécile, est-ce que tu veux déjà nous dire un petit peu la genèse un peu de cette histoire ?
Alors oui, cette histoire a commencé il y a un an au Festival de Lambesque. Georges Fauveau et Caroline Guichard de la médiathèque ainsi que la mairie de Lambesque sont venus me voir, tous les trois donc, pour me demander, me proposer en fait, d'écrire un roman dans le cadre du prochain festival. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont annoncé que la prochaine édition allait être steampunk, et donc nous y sommes. Et on m'a dit, voilà, il nous faudrait un roman à partir d'ici quelques mois, on commence à travailler dessus. Et ce roman serait écrit pour les enfants à partir de 8 ans devrait être lié à la ville de Lambesque et aux environs. Et pourquoi ils m'ont demandé d'écrire ce roman ? Tout simplement parce que il n'existait pas, dans le domaine francophone du moins, de roman steampunk destiné à la jeunesse. Et à la jeunesse au primaire, très exactement. Alors moi, tout de suite, ça m'a emballée, puisque déjà, l'idée d'écrire un roman steampunk en général, je suis partante. Mais d'autant plus pour un festival qui est tout près de chez moi, qui est très cher à mon cœur, et encore plus pour les enfants de la région, parce que bon, forcément, j'ai grandi ici, donc j'identifie un petit peu à eux, et ça me fait d'autant plus plaisir.
Comment est née un peu la trame de l'histoire ? Alors, on a parlé de la commande purement littéraire, mais du coup, comment est-ce que toi, tu as imaginé, et les personnages, et ce qui allait se passer ?
Alors, ça demande de présenter un petit peu les personnages en question avant d'en parler. Donc il y a Penny, donc Pénélope de Lambesque, donc une petite fille de 2015 qui se retrouve projetée dans un monde imaginaire assez mystérieux, dont on reparlera je suppose après. Et là-bas elle rencontre trois enfants, Jules, Jack et Maria, sans oublier Rollo le chien. Et en fait elle s'aperçoit peu à peu que ces personnages, donc, qui ont chacun entre 9 et 12 ans, sont respectivement la future Marie Curie, le futur Jules Verne et le futur Jack London. Et donc Rollo, le chien de Jack London, qui existait vraiment. Et elle comprend pas trop ce qu'elle fait là, etc. Et donc du coup, il découvre aussi qu'il se trouve dans le manoir d'Arsène Lupin. Et pourquoi je raconte tout ça ? Pourquoi je présente aussi Arsène Lupin ? C'est parce qu'au départ, j'étais partie sur le fait qu'Arsène serait mon personnage principal et que lui aurait 10 ans. Mais Arsène Lupin à 10 ans et gentil, ça fonctionnait pas très bien. J'arrivais pas à m'approprier le personnage. Forcément, il y avait du niveau à côté. Et j'y ai réfléchi, j'ai écarté l'idée, et je me suis dit, bon, Arsène Lupin en méchant très très âgé, ça pourrait faire quelque chose aussi, donner quelque chose de bien. Et c'est ce qui s'est produit. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai créé les personnages enfants, déjà parce que quand on est enfant, on s'identifie plus à des enfants, et donc le personnage de Penny. Tous ces personnages-là, en fait, sont liés... plus ou moins par rapport à l'intrigue du manoir. Est-ce que ça répond complètement à la question ?
Parle-nous un petit peu de Penny. Quelle sorte de petite fille est-elle ?
Alors, Penny, c'est une petite fille têtue, casse-pied, mais aussi gentille, qui aime beaucoup ses amis, qui a le cœur sur la main, qui aime énormément sa famille, qui est très liée à ses racines, à Lambesque, mais aussi à ses racines en général, c'est-à-dire... elle aime bien, pas uniquement Lambesque, mais aussi la région, elle aime tout ce qui est culture, mais aussi elle fait du judo. Donc, c'est une petite fille, elle a des qualités et des défauts sont inspirés des enfants que je connais. j'ai ma petite cousine Olivia qui, elle, est très têtue, très casse-pied, mais aussi très gentille. J'ai vraiment essayé de m'inspirer des enfants que je connaissais, et apparemment ça a marché. Puisque si je m'étais uniquement basée sur mes souvenirs, je pense que ça aurait donné un enfant qui avait des airs d'adulte. Et là, j'ai essayé vraiment de m'inspirer des enfants qui m'entouraient. Et donc, elle est tout ça.
Donc, Penny rencontre trois autres enfants. Évidemment, on les connaît tous. Enfin, on connaît tout du moins leurs exploits adultes. Pourquoi avoir choisi spécifiquement ces trois-là ?
Alors, j'aurais pu choisir énormément d'autres personnages historiques, ou fictionnels d'ailleurs. Je les ai choisis déjà par affinité personnelle, par rapport à qui ils étaient, ce qu'ils allaient faire plus tard, qui ils allaient devenir. Mais la liste était encore longue. Et en fait, donc j'ai établi une liste de personnages masculins et féminins, parce que je voulais la parité, vraiment l'égalité de garçon, de fille, pour que tout le monde puisse identifier à qui il ou elle veut. Et donc, sans hésitation, tout de suite, il choisit Jack London, parce que c'est un de mes auteurs préférés, notamment pour son livre « Malheureusement formé connu d'après moi, Le Vagabond des étoiles », un grand roman sur l'humanisme du début du XXe siècle, donc très très rare aussi quelque part, parce que ça part de la peine de mort, et à l'époque, c'était pas anodin. Donc Jack London, à la fois pour ce qu'il a écrit, mais aussi pour le personnage et la personne derrière. Jules Verne, ça s'imposait, alors déjà j'adore Jules Verne, mais aussi surtout on le considère plus ou moins comme l'un des pères spirituels du steampunk. Donc faire un roman steampunk avec des célébrités enfants sans Jules Verne, ça me paraissait une hérésie. Et Marie Curie, elle, parce que c'est une des rares figures féminines et féministes. Voilà, il y a quand même, ça a été une des premières femmes à être diplômée en France, une des premières femmes à être professeure de faculté. Elle a fait des découvertes qui ont, si elle n'avait pas été là, d'autres l'auraient peut-être fait à sa place, mais on n'en est pas certain non plus. En fait, ces trois-là, pourquoi eux spécifiquement, outre l'affinité et leurs histoires, c'est parce qu'ils se complétaient. Jack London, lui, est plus tourné dans le roman, hein, bien évidemment, je ne parle pas là des personnes réelles. Jack, dans le roman, est plus tourné vers tout ce qui est exploration sauvage, c'est vraiment l'aventurier, malgré lui, parce qu'en fait, il est pauvre, et il n'a rien, et il doit survivre, et il doit, pour ça, faire beaucoup de choses. Jules, lui, c'est plutôt le rêveur, celui qui rêve de machines volantes, qui rêve de futurs étincelants. Et Marie Curie, elle, Maria, elle est très pragmatique, très réaliste. Elle a perdu sa mère, déjà, à l'époque, elle a perdu sa sœur. Et donc, c'est quelqu'un qui est vraiment très ancré dans le réel. Et à tous les trois, ils se complétaient très bien par leurs compétences, leurs qualités, leurs défauts aussi. Et Penny, au milieu, elle, c'est la jeune fille de 2015. Et elle a d'autres qualités, d'autres choses à apporter à l'histoire. Et donc, ils formaient une équipe, pour moi, complète.
Est-ce que c'est facile de mettre en scène des enfants de personnages illustres, enfin, tout de même des personnages illustres, en enfants? Est-ce qu'il n'y a pas un poids de leur vécu, tout simplement, qui écrase un petit peu les choses?
Alors oui, justement, c'est ce qui m'a posé problème pour Arsène Lupin, parce que c'est un personnage que les gens se sont appropriés, et en refaire quelque chose, c'était encore plus difficile, donc c'est pour ça que j'ai écarté l'idée. Et pour eux, oui, c'était difficile, parce que je devais, tout en restant assez fidèle à ce qu'ils ont à ce qu'ils avaient vraiment été, réussir à ménager un espace narratif, un espace de création, où je puisse en fait dire, voilà, pour moi, Jack, Jules et Maria sont comme ci, comme ça. C'est pas anodin que je les appelle pas uniquement par leur prénom. Parce que pour moi, ce sont devenus mes personnages. Pour les enfants aussi, ils les appellent comme ça. Ils disent pas, ah, Jules Verne, on a fait ceci. Ils disent Jules. Donc quelque part, ça veut dire que j'ai réussi à me les approprier, et eux aussi. Mais oui, ça a été difficile. J'ai fait énormément de recherches, même si ce qui allait leur arriver n'était pas encore arrivé dans le roman. Ça peut paraître clair comme phrase quand on sait de quoi parle le roman. Oui, ça a été difficile, mais après, je pourrais pas dire j'ai dégagé telle ou telle méthode. Ça s'est vraiment fait à l'instinct, personnage par personnage. Et à chaque fois, c'était un peu comme une sculpture, en fait. Petit à petit, je commençais à vraiment entreapercevoir ce qui se trouvait en dessous du personnage adulte tel qu'on le connaissait.
Une petite question donc sur Arsène. Pourquoi est-ce que tu as choisi spécifiquement ce personnage? Tu as commencé à nous en parler. Quelle relation tu entretiens un petit peu avec lui? Et même question, c'est ce que tu disais. Comment est-ce que toi, tu l'as mis en scène? Comment est-ce que tu te l'es approprié?
Alors, donc la première partie de la question, Arsène Lupin, c'est une figure populaire qu'on connaît tous. Et j'ai trouvé intéressant de reprendre une de ces figures. Déjà, pourquoi? Parce que quand j'étais ado, alors moi j'ai découvert Arsène Lupin ado, hein, j'ai découvert par les dessins animés en fait qui existaient à l'époque, je sais plus exactement comment ils s'appelaient, mais moi j'en garde un souvenir, je me régalais, je les avais tous vus. Voilà, ça devait être ça. Et j'étais vraiment passionnée par ces dessins animés-là, et c'est après donc que j'ai découvert les romans. Et donc je les ai pas tous vus parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Ce sont des romans qui m'ont accompagnée jusqu'à à peu près mes 20-23 ans, et donc j'en ai gardé toujours. Si maintenant j'en prenais un nouveau que j'ai pas encore lu, je le prends, je le lis, je vais me retrouver dans un univers familier. Donc c'était un personnage que, même si je ne connaissais pas toutes ses facettes, j'étais déjà familière avec lui, et surtout quand je rentrais dans ces univers, je me sentais un peu à la maison, en fait. C'était vraiment le roman d'aventure avec le gentleman cambrioleur. Enfin, c'était super intéressant et passionnant. C'était vraiment quelque chose où j'avais une émotion associée à ce personnage. Et donc, quand j'ai voulu me l'approprier, moi, et me dire, bon, bah, qu'est-ce que je pourrais faire qui soit à la hauteur du personnage d'Arsène Lupin, et que j'ai voulu le reprendre enfant, ça marchait pas parce que justement, il y avait trop de choses. C'était impossible pour moi de ménager un espace narratif dans l'enfance d'Arsène Lupin. Il y avait trop de choses qui avaient été dites, écrites, et à juste titre, qui étaient fixes ou pas. Des fois, c'est assez mystérieux, la vie d'Arsène Lupin. Donc, je me suis dit, ok, autant ne pas m'intéresser à ce qui se passait avant. On en a dit assez comme ça dessus. Je vais m'intéresser à ce qui pourrait se passer bien, bien après, en imaginant que le personnage d'Arsène Lupin ait pris littéralement vie dans un univers imaginaire. Qu'est-ce qu'il serait devenu? Pourquoi? Comment? Et donc c'est de là que l'idée d'un Arsène Lupin mécanique en quête d'immortalité, à la fois d'une part immortalité spirituelle, donc rester dans les esprits, mais aussi une immortalité physique, comme un personnage qui voudrait gagner corps. Et donc c'était intéressant à la fois au niveau de l'intrigue pour les enfants, parce que eux ça leur fait un méchant qui a vraiment une raison d'être cruelle, entre guillemets, mais aussi au niveau, pour les adultes par exemple, le passif du personnage et la signification, c'était aussi intéressant. Donc il y avait une double lecture, et c'est donc en m'intéressant à son possible futur que j'ai réussi à me l'approprier.
T'as gardé le côté archétypal, vraiment c'est devenu un archétype de... personnage de légende littéraire, t'es resté collé à ça, ce que tu voulais faire.
Oui, c'est exactement ça. Et de toute manière, dans le steampunk, généralement, les archétypes, les personnages littéraires, les personnages historiques, on s'y intéresse beaucoup, on se les réapproprie ou pas. Des fois, ce sont des figures qui passent dans le roman. Des fois, elles ne sont même pas nommées, mais si on a l'œil, on peut les repérer. Et donc, c'était aussi dans l'esprit du steampunk. Jack, Jules et Maria aussi, c'était la même chose. C'était le fait de lier des univers qui, a priori, n'avaient rien à voir entre eux. A priori, la science de Marie Curie et les aventures de Jack London n'ont rien à voir, mais si.
Alors justement, parlons un petit peu de l'univers. Comment est-ce que tu l'as construit? Puis après, on parlera de l'ambiance.
Alors, l'univers. J'ai d'abord fait... j'aime bien faire des listes, moi. Je fais des listes de personnages, etc. Et là, j'ai fait des listes de ce que j'aimais dans les univers steampunk. J'aimais quoi? J'aimais les labyrinthes. J'aimais les manoirs. J'aimais les machines mystérieuses dont on ne sait pas à quoi elles servent. Et j'aimais bien aussi le fait que les créatures vivantes soient mécanisées. J'ai mis tout ça. Donc du coup, on atterrit dans un manoir avec des murs mécaniques, donc les mécamurs, ils appellent ça dans le roman. Un manoir mécanique, donc les pièces bougent, donc c'est un manoir gigantesque, avec vraiment, d'heure en heure, les pièces changent d'endroit. Donc c'est assez dangereux aussi, parce qu'il faut faire attention à quel moment, selon là où on se trouve, tout peut bouger, tout peut changer. Le labyrinthe donc, est à la fois dans le manoir et dans les mécanismes gigantesques. Et aussi les enfants, quand ils explorent le manoir et les mécamurs, ils découvrent des recoins secrets. Et ce sont des enfants, ils ne savent pas à quoi ça sert. Et donc du coup, pour eux, ça leur paraît tout à fait merveilleux, fantastique et très dangereux. Et donc ça reproduisait ces trois éléments. Et dans l'univers du manoir, en fait, le manoir d'Arsène Lupin n'existe pas dans notre monde. C'est un autre monde. Et en fait, cet autre monde, c'est... alors moi, aux enfants, je leur dis ça les fait beaucoup rire. Je leur dis, imaginez le temps, c'est une pâte à crêpes. Vous avez un grumeau à l'intérieur. Ben, le manoir d'Arsène Lupin, il est dans le grumeau de temps, en fait. Et donc, ça les fait rire, mais c'est exactement ça, en fait. C'est un recoin temporel, une bulle temporelle, si on veut dire. Mais eux, bulle temporelle, ils ont plus de mal avec le concept. Et donc du coup, je leur dis, voilà, imaginez qu'en fait, c'est un monde autosuffisant, magique, dans lequel on peut rentrer par les terres et sortir par les terres. Donc je leur expliquais la matière magique, etc. Et en fait, cette bulle de temps, elle est figée. Elle ne peut pas vieillir à l'intérieur. Mais c'est pas parce qu'on ne vieillit pas qu'on ne change pas. Et en fait, toutes les matières organiques se mécanisent à l'intérieur. Donc c'est-à-dire que quand on arrive, on est vivant. Par exemple, quand Jules, Maria et Penny... trouve Jack, parce que Jack, lui, il était arrivé avant, ça fait quelques semaines qu'il est là. Il dit, voilà, avec Rollo, c'est bizarre, on n'a ni faim ni soif et pas envie de dormir depuis des semaines. Pourquoi? Parce que la magie du manoir agit sur eux, en fait, et peu à peu les transforme.
Comment tu l'as imaginé, ce manoir? Parce que là, tu nous parles de mécanique, mais tu avais une image en tête particulière?
Alors oui, moi, j'ai une image, mais après... c'est difficile de parler d'image parce que ça impose quelque chose au lecteur. Il y a des enfants qui ont imaginé le manoir sur vraiment une surface énorme, d'autres plutôt en hauteur, d'autres, je sais pas, comme un gâteau géant, enfin c'était vraiment, il y avait tout, voilà, c'était vraiment, comme ça, c'était un manoir qui se modifiait dans les formes, eux aussi ont imaginé ce qu'ils voulaient. Moi après, je l'imagine de l'intérieur en fait, extérieurement, je l'ai imaginé tellement gigantesque que même moi, je me suis dit, autant ne pas se le figurer, mais l'explorer en fait. Donc moi, le manoir, je le vois à l'intérieur, je vois la bibliothèque, je vois la salle des sphinx, je vois la tour d'Arsène Lupin, je vois là où il y a le dirigeable. Donc c'est vraiment un parcours à l'intérieur. Et en plus, comme il change de forme, se l'imaginer de manière fixe, c'est assez difficile.
Tu as un personnage qui s'appelle Penny de Lambesque, entre guillemets. Comment est-ce que tu as utilisé la région et ses paysages?
Alors, j'ai utilisé notamment la roque d'Anteron et l'Ambex, mais pas uniquement. J'ai utilisé, alors comment? Déjà, de manière tout à fait pragmatique, j'ai pris ma voiture et j'ai un peu visité les coins. J'ai pris des routes au hasard, en fait, littéralement, pour voir à quoi ça ressemblait. Bon, je connaissais déjà, mais se surprendre, ça permet aussi d'imaginer des choses. Donc, du coup, ça me permettait de créer. Après, c'est un peu dangereux d'imaginer en conduisant, mais bon, ça va, je suis toujours vivante. Et... Donc il y a ça, mais d'autre part, la région a une histoire très très riche, et ça on ne le sait pas forcément quand on y habite, même si on y habite depuis tout petit. Alors moi par exemple, j'ai découvert que Lambesque s'était appelé le Versailles-Aixois. J'étais pas au courant, moi je savais pour certaines choses et pas d'autres. J'ai découvert aussi l'histoire de la Résistance par exemple. Donc il y a des monuments historiques que j'avais déjà croisés, etc., donc je savais à quoi ils correspondaient. Mais d'autres choses où je n'étais pas forcément au courant, et donc c'est en faisant des recherches que vraiment je me suis dit « Ah oui, mais en imaginant que Penny, mon personnage, connaisse bien la région parce que ses grands-parents sont très attachés à l'histoire, etc. », ça pourrait être un moyen de mettre en scène l'histoire de la région, sa culture. Et donc du coup, je suis passée par le personnage des grands-parents, et donc de la transmission entre les générations, pour réussir à vraiment mettre en scène... la région a ancré à la fois le personnage de Penny, mais aussi l'histoire dans l'histoire de Lambesque. Et pour une histoire steampunk, c'était pas gagné, puisqu'au départ, je me suis dit « Ah, peut-être que je pourrais faire un truc dans le passé de Lambesque, etc. » Mais par rapport au format du roman, qui on m'a demandé pour les CM1, CM2, donc il fallait faire assez court, même si pas trop non plus, je me suis dit « Ça rentrera pas. Il y aura trop de détails à donner, il faut que je procède autrement. » Donc la transmission entre générations, ça marchait bien.
C'est un roman de commande avec des personnages que tu aimais particulièrement, des personnages littéraires que tu aimais particulièrement, dans une région que tu habites et que tu aimes bien, pour des enfants. Est-ce que finalement ça a été plus facile ou plus difficile à écrire par rapport à tes autres romans?
Plus difficile. Déjà parce que c'est mon premier roman destiné à la jeunesse spécifiquement, donc il fallait que je m'empare entre guillemets du média, etc. Je voulais écrire un roman. Alors les enfants m'ont dit « Ah madame, il y a des mots compliqués à l'intérieur. » Oui, c'est fait exprès. mais le truc, c'est que... comment dire, j'ai pas cherché à simplifier le vocabulaire. J'ai écrit comme c'est venu. Et après, quand le vocabulaire était compliqué, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le contexte, de manière à ce que le contexte informe sur le mot qui était difficile. Et comme ça, ils savaient exactement de quoi ça parlait. Donc ça a été un travail qui a été fait après. Mais sur le moment, au niveau de la création de l'univers, etc., d'y réfléchir, c'était compliqué parce que ça relevait à la fois de l'exercice, puisque j'avais différentes consignes, mais aussi il fallait que j'y mette des choses personnelles, il fallait en même temps que ce soit pas trop à la fois impersonnel, il fallait que je trouve un juste équilibre. Et c'était pas évident, ça a été assez délicat les premières semaines. Heureusement, j'ai été aidée par plusieurs personnes qui m'ont conseillé, qui m'ont dit « Ah, peut-être que tu pourrais faire comme ci, comme ça ». Et donc du coup, l'aide de ces personnes m'a été très précieuse, et c'était vraiment un travail d'équipe, même si effectivement c'est moi qui ai créé le roman, c'était vraiment un travail d'équipe. Et en cela, ça m'a facilité le travail, parce que je pense que toute seule, j'y serais arrivée, mais pas... en un an, ça n'aurait pas été faisable.
Quel est un peu ton rapport au steampunk, justement?
Parce que c'est pas innocent, ça.
Alors, mon rapport au steampunk. Le steampunk, je connais depuis quelques années. Je fais pas partie de la première génération steampunk, si tant est qu'on puisse dire qu'il y en a eu une, et définir une première ou une deuxième génération, etc. J'ai découvert, en fait, un peu par hasard, sans m'en apercevoir. J'ai commencé... Moi, le roman d'aventure, j'en lisais avant, roman Et donc, c'est par là que je suis arrivée au steampunk. Et j'ai commencé à en lire sans en apercevoir vraiment, et j'ai plongé dedans en me disant « Ah, c'est génial !» Et un jour, on m'a donné un nom, on m'a dit « Ça, c'est du steampunk, en fait, ce que tu lis. » « Ah bon ? Ah d'accord, super !» Donc oui, c'est pas innocent, et puis depuis, je sais pertinemment que j'en écris, parce qu'au début, j'ai commencé aussi à en écrire sans le savoir. Les Foulards Rouges, qui est donc notre de mes séries, quand j'ai commencé à l'écrire, je connaissais pas vraiment ce que c'était le steampunk. J'étais là, je dis « Oh, ça a l'air sympa, on va rajouter ça, etc. » Et c'est à environ 3-4 mois après que j'ai commencé à poser les bases, on m'a dit « Ah, mais ça, c'est du steampunk aussi, donc même chose. » Et donc mon rapport au steampunk, c'est venu par hasard, et maintenant, en fait, je le fais tout à fait consciemment, mais je le fais pas en me disant « Je vais écrire un roman steampunk. » J'écris du steampunk parce que c'est ce que j'aime, c'est quelque chose qui me permet d'exprimer ce que j'aime le plus, et dans le steampunk, ce que j'apprécie le plus, c'est le côté hybride. C'est-à-dire qu'on peut tout se permettre, ou presque. On peut mélanger les gens, on peut mélanger les époques, on peut mélanger les technologies, on peut mélanger les approches, les thématiques, etc. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on peut créer des univers romanesques, ou des romans-univers, qui vraiment s'étendent à la fois dans le temps et... alors, dans d'autres univers, la fantasy, etc., aussi. Mais l'approche n'est pas forcément la même, et dans le steampunk, il y a vraiment une... J'ai pas envie de dire transcendance, parce que c'est un mot trop connoté, mais on pourrait l'utiliser. On passe vraiment à travers les mailles de plusieurs strates, en fait, temporelles et géographiques et culturelles, et c'est vraiment ce qui m'intéresse.
Tu as passé la semaine avec les enfants. oui, quel a été le contact? Comment ça s'est passé? Quelles ont été un peu leurs questions récurrentes? Est-ce que toi, tu as pris du plaisir à cet exercice-là?
Alors oui, c'était extraordinaire. J'aime beaucoup rencontrer les enfants parce que ce sont des lecteurs. Quand ils n'aiment pas, ils vous le disent. Ils vous font « Ah non, j'ai pas aimé du tout. » Mais du tout, du tout, du tout. Mais ils vous en veulent pas personnellement. Juste, ils le disent. Et voilà. Et ceux qui ont adoré, par contre, ils vont aussi vous le faire savoir avec autant d'enthousiasme, etc. Et donc, ce sont des lecteurs très, très francs, très tranchés aussi. Il n'y a pas de juste milieu. C'est pas « Oh, je sais pas. » Généralement, c'est « J'ai adoré » ou « J'ai détesté. » Alors là, heureusement... 99% des élèves que j'ai croisés cette semaine ont adoré le roman, donc très heureuse pour eux surtout, puisque le roman a été écrit pour eux. Et ils ont aimé parce que justement ça parlait de l'ambesque de leur région, ils étaient très attachés à ça, et attachés aussi au fait que bah, les personnages leur parlaient tout simplement. Et donc oui, j'ai rencontré les enfants cette semaine, et c'était... Ils m'ont posé des questions, surtout sur l'univers. Avant, j'avais fait des rencontres avec des collégiens, il y a quelques années, aussi dans le cadre du festival. Et eux, c'était plutôt des questions sur, oui, un contrat avec un éditeur, ça se passe comment, etc. Donc des questions très techniques sur le monde du livre, etc. Alors que les enfants CM1, CM2, c'est plutôt, ah oui, mais quand vous avez créé ça, vous avez pensé à quoi? Tel objet, vous dites pas à quoi il sert, au final, il sert à quoi? Donc ils se posent beaucoup de questions sur l'univers. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, quand on écrit pour la jeunesse, il faut aller encore plus loin que pour les adultes, parce qu'eux, ils se posent toutes les questions qu'on peut se poser, et ils vont nous les poser. Donc il faut avoir des réponses, il ne faut pas les inventer sur le moment, il faut vraiment dire, voilà, là, il y a un endroit où c'est resté sombre, c'est fait exprès des fois. Je leur ai dit, voilà, là, à la fin, ils me disent, oui, mais quand ils rentrent chez eux, etc., on ne sait pas trop comment ça se passe. Je dis, mais oui, mais ça, c'est fait exprès. J'ai dit comment ça se passait, mais je n'ai pas décrit pourquoi. Pour que vous puissiez vous l'imaginer. Et ça, ils n'aiment pas trop, ils sont un peu frustrés.
Alors, ça s'appelle Penny Cambriol et l'horloge a volé le temps. Et alors, parfois, quand il y a un sous-titre, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs livres. Est-ce qu'il y aura une suite?
Alors, a priori, oui. Après, comme on dit, c'est une affaire aussi d'éditeurs, de plein de choses, etc. Donc, je ne pourrais pas dire quand ni dans quelles conditions. Pour l'instant, je ne sais pas. J'en suis à la phase de création. Donc, je réfléchis à la suite. Et cette suite, a priori, tournerait autour de Van Gogh et de La Nuit étoilée. Voilà. Mais je ne peux pas encore en dire trop parce que je suis en train de créer vraiment le synopsis. Et donc, c'est petit à petit. J'ai pas de titre pour l'instant pour le top 2.
Et puis, un dernier mot, sur quoi est-ce que tu travailles actuellement? Encore du steampunk?
Et encore du steampunk, oui. Je travaille sur plusieurs choses. Donc déjà, la suite des Foulards Rouges, qui est donc une série steampunk. Je travaille sur la saison 3 en ce moment. Enfin, je vais travailler, parce que je suis en train de vraiment de fignoler le synopsis, etc., donc en travail préparatoire. Là, je termine le tome 4 des Nécrophiles Anonymes, qui n'est pas du steampunk, mais qui a quand même quelques traits steampunk, donc on peut le relier. Je suis bloquée sur la fin. Je n'arrive pas à trouver la manière d'aborder la manière. Enfin, j'ai une fin précise, mais j'ai du mal à aborder de la manière, comment dire, avec le bon ton, puisque c'est à la fois c'est un peu sombre et en même temps il y a de l'espoir. Donc il faut que je trouve la bonne approche. Et sinon, oui, je travaille sur des romans steampunk, mais je peux pas encore trop en dire pour l'instant. C'est encore secret. C'est dans les tuyaux.
On va garder ça secret. Donc ça s'appelle Penny Cambriole et l'horloge a volé le temps, je vous le conseille. Merci Cécile.